Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. C'est un phénomène qui est invisible, ou bien que l'on ne veut pas voir. Dans la nuit du 24 mai dernier, il y avait au moins près de 2800 personnes, 2794 exactement, sans domicile à Montpellier et dans six communes voisinantes, Grabet, Juvignac, Latte, Pérol, Vendargues et Villeneuve-les-Maguelones. Ces personnes étaient dans des bidonvilles, des squats, des hébergements d'urgence, des hôtels sociaux. Et parmi elles, 275 personnes, dont 8 mineurs, étaient à la rue, c'est-à-dire dans des rues, dans une voiture, dans des parkings, des recoins, des espaces verts. 275 personnes, au moins, cette nuit-là, à la rue dans notre bonne ville. Voilà des chiffres qui ne mesurent pas toute l'ampleur du phénomène ni toute sa réalité humaine. Pour nous en parler de manière précise, j'ai invité Marion Lièvre. Vous êtes anthropologue, vous étiez rattachée à la Maison des sciences de l'homme sud à Montpellier, qui dépend de l'université Paul Valéry. Aujourd'hui, vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez travaillé sur les migrations et sur ce qu'on appelle le sans-abrisme. Marion Lièvre, merci d'être venue au micro de Divergence FM. Mais d'abord, racontez-nous votre Montpellier. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché ou que vous conseillez à vos amis de passage?
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc du coup, les lieux sur Montpellier, il y en a quelques-uns. J'aime beaucoup aller au parc Montcalm. Ouais. Je trouve qu'il y a une mixité très intéressante dans ce parc.
Oui, à la fois les riverains,
les sportifs,
les familles, ouais. Etc.
Complètement. Donc le parc Montcalm et puis... Ensuite, j'ai envie de dire, dans la ville, j'ai plutôt un rapport assez quotidien à la ville de Montpellier, donc amener mes enfants à l'école, etc. Et c'est plus les alentours que je vais conseiller en général, mais j'aime beaucoup aussi toute l'activité culturelle de la ville, donc bien sûr les musées, le MoCo, l'altropisme aussi, la Panacée, enfin les différents lieux où il y a des expositions. Et puis aussi tous les espaces qui sont offerts où on peut, où il y a beaucoup d'activités avec les enfants, je trouve, qui sont assez intéressants.
Vous êtes une jeune maman.
Je suis une maman. Jeune, je ne sais pas.
Très bien. En tout cas, vous avez de jeunes enfants. Très bien. Et alors, selon vous, vous connaissez d'autres villes, en quoi Montpellier se caractérise? Quel est-ce qu'il y a un style de Montpellier ou une manière particulière de faire ville ou d'être une ville? Quel serait-il là? Comme ça, spontanément, là, qu'est-ce que vous remettez en relief quand vous parlez de la ville à des tiers?
Pour moi, c'est plus son ancrage, encore une fois, avec le contexte autour. Donc, le fait que ce soit une ville du Sud, mais une petite ville à taille humaine, et puis qui se situe dans une région qui est un département qui est quand même assez magnifique et qui mêle, bien sûr... la mer Méditerranée,
la Garrigue, et
la montagne, enfin les Cévennes, quoi. Voilà, donc c'est plus ça qui me vient à l'esprit. Et puis, bon, aussi, bien sûr, la ville, le quartier historique de Montpellier, que je trouve très
bien
joli.
Sûr. Alors, dernière question sur ce chapitre. Vous habitez Montpellier depuis environ 10 ans. Vous avez donc vu la ville grandir, se développer sur tous les plans, urbanistiques notamment. Quel est votre regard sur cette expansion? Parce que les avis sont souvent assez partagés. Sur les mutations que cette ville, aujourd'hui une dite métropole, a connues?
Alors, 20 ans, oui. 2004-2024,
ah oui.
Je crois que ça fait 20
ans.
Oui, en effet, un développement assez important de toute la nouvelle mairie et tout ce nouveau quartier de ce côté-là. Une ville qui grandit beaucoup, avec un rapport aux pistes cyclables et à une autre forme de mobilité en ville qui a quand même pas mal percé. Après, oui, voilà, je partage cet avis assez critique sur ce développement urbain qui serait apparemment nécessaire, mais qui questionne toujours, et j'en viens à la question du sans-abrisme, que la FAP questionne toujours, c'est-à-dire qu'il y a énormément de logements qui sont créés, mais de l'autre côté, il y a énormément de personnes qui sont en attente de logement, mais visiblement, l'un ne rencontre pas l'autre.
En tout cas, oui, les besoins ne sont pas... L'un est tous satisfait dans des conditions correctes, c'est ça?
C'est-à-dire qu'on crée du logement, mais pour qui on... Enfin voilà, ça ne remplit pas toujours toutes les conditions pour les personnes qui sont en situation de précarité. Ouais.
Très bien. Alors on va parler donc précarité, en effet, sans-abri. Avant d'en venir au sujet d'aujourd'hui, dites-nous pourquoi vous avez choisi d'être anthropologue. Qu'est-ce que c'est ce domaine de la science, de la recherche, que nos auditeurs ne connaissent pas nécessairement?
Alors l'anthropologie, c'est vraiment une discipline que je recommande vivement. Moi, je suis assez passionnée de cette discipline. Donc c'est l'étude de l'homme en société, ni plus ni moins, grossièrement. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est très très proche de la sociologie. Il y a plus les avis divergent. Certaines personnes pensent que les objets de recherche entre la sociologie et l'ethnologie sont assez similaires. Ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, ce sont deux disciplines qui se sont constituées de manière distincte, avec des objets qui étaient beaucoup plus, pour l'ethnologie ou l'anthropologie, des objets qui étaient plus de sociétés dites non occidentales.
Ah oui.
Voilà.
Ouais.
Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est difficile de trancher. En tout cas, c'est l'étude de l'homme en société. Et puis la compréhension assez fine de la singularité d'une société, mais aussi de manière plus globale, des universaux qui peuvent se dégager, qu'on peut retrouver dans différentes sociétés.
Voilà. Et bien sûr, des interactions au sein de cette société telle qu'elle se passe.
Voilà. Et puis, un autre point important sur cette discipline, c'est que donc, c'est la compréhension de l'altérité, mais qu'elle soit non pas entendue qu'en termes culturels, mais aussi, bien sûr, sociale. Voilà.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à développer depuis plusieurs années des recherches sur le sans-abrisme? D'abord, j'ai découvert cette expression en préparant cette émission, mais chacun comprend ce dont il s'agit, le phénomène qui concerne les sans-abri, bien entendu. Pourquoi ce travail particulier, dont j'ai rappelé qu'il n'était pas l'unique objet de vos recherches, mais pourquoi les sans-abrisme?
Alors, j'ai commencé en fait à travailler avec les habitants des bidonvilles, majoritairement les familles roumaines qui viennent de Roumanie, non pas parce que j'ai voulu faire une restriction, une sélection, loin de là, mais parce qu'en fait ma thèse se passait en Roumanie. J'ai beaucoup travaillé sur le mouvement politique de revendication identitaire des Roms en Roumanie. Donc je suis bilingue, donc et forcément je me suis intéressée aussi à la question des Roms. Des Roumains ou Roms roumains en France. Donc c'est ce qui m'a amené à travailler auprès de personnes en situation de précarité en France, qui n'était pas du tout à la base ce sur quoi je travaillais. Comme je viens de le dire, je travaillais sur un mouvement politique en Roumanie. Donc là, j'ai commencé à travailler sur la précarité par le prisme du bidonville et donc des Roms roumains. Et quand je parle de Roms roumains, donc c'est important, je le précise, il ne s'agit pas d'enfermer du tout ces familles dans une prétendue appartenance ethnique homogène, loin de là, puisqu'en fait, il y a plein d'appartenances différentes. La plupart des familles, d'ailleurs, n'utilisent pas le terme de Roms pour s'identifier.
Ah oui, elles ne se définissent pas comme Roms.
Non, certaines vont se dire utiliser d'autres termes, en tout cas, soit tziganes, soit d'utiliser d'autres termes qui vont être le gentilé du village ou d'autres termes en lien avec des appartenances professionnelles, etc. Mais souvent, c'est quand même des familles qui se rattachent à une ethnicité, à une appartenance ethnique. C'est pour ça que je précise qu'ils sont Roms. Et donc, de ce sujet-là, bien sûr, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les Roumains qui étaient en précarité en France, que ça touchait des populations beaucoup plus larges. Et donc, j'ai commencé à participer à des réseaux de recherche sur le sans-abrisme, notamment un réseau de recherche basé à Lyon, qui s'appelle Aux frontières du sans-abrisme, et qui est composé de plusieurs chercheurs qui font des enquêtes depuis des années sur la question. Et donc je participe de ce réseau depuis 2017-2016 et donc j'ai pu bénéficier un peu de leurs recherches. Et en 2020-2021, j'ai eu ce poste à la MSH qui consistait à mettre en œuvre l'enquête Nuit de la solidarité auprès des personnes sans abri.
Dont on va parler.
Voilà.
Alors, j'avais prévu une question pour que vous indiquiez dans quel cadre cette recherche se situe. Mmh. Vous l'avez dit donc. Donc, le 24 mai, je l'ai dit, a eu lieu la Nuit de la Solidarité. C'est le nom qui lui a été donné. Alors, Qu'est-ce que c'était que cette opération? Comment était-elle organisée? Et quelles ambitions ou quels objectifs portait-elle en elle?
Alors, c'est une enquête qui est donc pensée et pilotée au niveau national par l'État, par la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement. C'est-à-dire que c'est la DIAL qui coordonne cette enquête-là au niveau national, qui est donc mise en œuvre dans plusieurs villes en France. Ça a commencé, je crois, en 2018. Avec principalement la ville de Paris. Et puis, petit à petit, bon, il y a eu le Covid entre les deux, donc je crois qu'il y a eu une année où il n'y a pas eu d'enquête. Mais donc moi, 2022, on était déjà une bonne vingtaine de villes, je crois. Et là, 2023, il y avait une trentaine de villes. Et 2024, je crois qu'il y en avait encore plus. Donc la DIAL au niveau national, qui délègue au niveau local la responsabilité de la mise en œuvre de cette enquête, soit à la DETS au niveau local.
C'est les services de l'État.
Voilà, un service de l'État. Ou, et la DETS ensuite, soit délègue à la métropole ou aux villes. Dans la plupart des cas, ce sont des villes qui mettent en œuvre cette enquête. À Montpellier, c'était la métropole. Et qui a délégué à l'université Montpellier 3, puisqu'ils avaient cette volonté de travailler avec...
La partie opérationnelle qui s'est faite avec l'université.
Voilà, mais ils avaient la volonté de travailler avec des scientifiques. Donc, oui.
Alors, vous n'avez pas fait ça tout seul avec vos petites mains. Donc, un grand nombre de bénévoles qui ont participé à cette opération, parce que c'est intéressant de raconter comment ils ont été recrutés et quelles actions ils ont menées dans cette nuit donc, du 24 mai.
Oui. Avant, je rappelle les objectifs. Vous me l'avez demandé tout à l'heure. Oui. Il est double. L'objectif, c'est un, de recenser. Donc, c'est un recensement. Et deux, c'est d'avoir une meilleure connaissance des personnes, de leur trajectoire et de leurs besoins. Et c'est pour ça qu'il y a un questionnaire qui est double, avec une partie plus d'observation, où les enquêteurs, les bénévoles n'ont pas besoin d'entrer en interaction avec les personnes enquêtées. Et puis, il y a une autre partie, entretien. Où là, justement, ça permet de renseigner un petit peu plus, de mieux connaître les besoins des personnes. Donc oui, je n'ai pas du tout été toute seule, puisque c'est donc un recensement sur toute la ville de Montpellier, à minima, et donc, comme vous l'avez précisé, six communes de la métropole. Et donc, cette année, en 2023, il y a eu 194, à peu près 200 bénévoles.
Ah oui, c'est quand même considérable.
Oui. Et ce qui n'est loin d'être suffisant, puisque pour quadriller une ville...
Oui, parce que le principe, c'est de faire ça dans une nuit donnée, mais on ne s'est pas étalé sur plusieurs jours, sur une période plus longue. On fait, en quelque sorte, le regard, le zoom, lors de cette nuit-là.
Alors, on dit en effet nuit, mais c'est plutôt première partie de la nuit, 20h, minuit.
Oui, bien sûr, voilà. Vous ne voyez pas les gens à 2h du matin.
Non, voilà, exactement. Bien sûr. Non, mais je précise parce que c'est vrai que... Mais ce qui donne un temps restreint, et donc il faut quadriller toute la ville en 4 heures. Et donc, c'est un travail de recensement, hein, comme le fait l'INSEE pour le recensement national. Il s'agit de quadriller la ville et puis de mettre des équipes par secteur d'enquête qui parcourent du coup un secteur d'enquête. Et puis, tous les secteurs d'enquête sont rassemblés dans ce qu'on appelle des QG, des quartiers généraux. Et il y en avait 11 dans la ville, en gros.
Ville et les 6 communes
avec attenantes. Les 6 communes, la plupart étaient rattachées. Les QG étaient des QG qui étaient
voilà,
en périphérie.
En périphérie du quartier Montpellier.
C'est ça.
D'accord. Alors, vous prenez soin de dire que ces chiffres correspondent donc aux personnes rencontrées de manière effective. Donc, pas simplement pour le dénombrement, mais pour son antenne, la possibilité qu'elles ont eu de répondre à ces questions pour qu'on connaisse leur situation. Voilà, parce que ça montre quand même la rigueur dans la conduite de cette enquête, mais aussi ses limites. C'est-à-dire que ce n'est pas exhaustif, autrement dit.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus, puisque cette enquête, en fait, c'est pour ça que c'est important de rendre compte qu'il s'agit d'une enquête organisée et pilotée à la base par l'État, et ensuite les collectivités à l'échelle locale. Et donc, c'est une enquête qui est un peu entre deux, qui n'est pas vraiment considérée comme ayant une méthode rigoureuse et scientifique. D'où la volonté de la métropole de travailler avec des scientifiques. Mais ce qui n'empêche pas un travail, le fait que tout le monde fasse au mieux. Mais
oui, en fait, je résume. Il y a le croisement d'une démarche institutionnelle, l'État, la métropole, l'institution. Une démarche de bénévoles et puis, bien sûr, une démarche scientifique qui se conjugue, ou les trois démarches se conjuguent.
C'est ça, mais qui vient questionner aussi le besoin de recenser. Pourquoi recenser? Pourquoi connaître par les chiffres? Et puis voilà, donc d'où toutes ces précautions, et puis aussi parce que bien sûr, bah, il est difficile de rendre compte du nombre de personnes à la rue. C'est pour ça qu'on a pris soin de dissocier les personnes sans domicile rencontré des personnes sans abri. Vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Voilà.
Oui, parce que c'est l'aspect le plus flagrant, le plus scandaleux peut-être, ou le plus difficile de ces situations, quoi. Ceux qui sont, les personnes qui sont à la rue, ils n'ont pas d'hébergement, quoi, tout
voilà,
simplement.
Exactement, voilà. C'est ça. Donc de bien préciser, celles qu'on a pu rencontrer, ben, bien sûr, c'est celles qui n'étaient pas hébergées ce soir-là, mais ce qui n'empêche pas d'avoir pris en compte les chiffres du SIAO pour avoir une vue d'ensemble du nombre de personnes qui étaient hébergées ce soir-là. C'est ce qui nous conduit au chiffre à peu près de 2794 sans domicile. Ouais.
Alors on va aller plus près des personnes qui sont sans abri. Si vous pouvez, bien sûr, à grands traits, nous dire, bon, quelles sont leurs caractéristiques, on voit d'âge, de sexe, de situation familiale, donc une espèce de portrait nécessairement à grands traits là, de ces personnes-là, parce qu'on comprend bien qu'il y a des situations différentes, mais quelles sont en tout cas les grandes caractéristiques, j'allais dire, de cette partie de la population de Montpellier, pour l'aborder comme ça.
Bon, ces caractéristiques sont assez communes avec celles qui sont observées dans d'autres villes. Hein. Donc là, ce qui ressort, c'est une majorité d'hommes, avec quand même une présence assez conséquente de femmes, notamment plus que ce qu'on avait pu rencontrer l'année d'avant. Une majorité de personnes seules, même si, et j'ai pris soin de le noter, une bonne partie des personnes ont été rencontrées en collectif, elles étaient en groupe ce soir-là, et quelques situations familiales et des couples aussi. Donc majorité d'hommes, de personnes seules. L'âge, donc c'est à peu près l'âge médian, je crois que c'était c'est 40 ans à peu près, hein, donc une tranche d'âge assez, assez jeune. Voilà.
Des enfants ?
Et donc, on a vu très peu d'enfants, on a vu 8 enfants, je crois, si je me rappelle bien, ce qui est assez, assez peu, puisqu'il y a de plus en plus, en tout cas ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de familles qui sont à la rue, et notamment il y a l'équipe mobile pour le soutien à la parentalité qui accompagne beaucoup de ces familles-là, et qui constate un nombre de plus en plus conséquent, mais qui n'est pas ressorti dans cette enquête-là, oui.
Et alors, bon, ces personnes sont à la rue depuis un certain temps pour un certain nombre d'entre elles. C'est des situations qui peuvent perdurer plusieurs mois, voire davantage.
Oui, même sur des années surtout. C'est-à-dire que là, la plupart des personnes rencontrées disent qu'elles sont à la rue dans cette situation depuis plus de 5 ans, avec une bonne part, certaines qui précisent être là depuis plus de 20 ans. Donc oui, c'est des situations de longue durée.
Alors bien entendu, bon, cette enquête ne cherche pas simplement à acquérir une connaissance, mais aussi à déboucher sur des actions, et notamment à avoir une idée de la situation de ces personnes sur leurs ressources, leurs accès aux droits, sur les dispositifs d'assistance qui existent, pour là aussi porter un diagnostic aux fins opérationnelles futures. Alors que peut-vous dire là-dessus de cette distance, me semble-t-il, entre la situation de ces personnes et l'ensemble des dispositifs existants, quels que soient ceux qui les montrent, les institutions, les associations, etc. Comment ça se présentait, en tout cas, lors de cette nuit du 24 mai ?
Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a plein de problématiques complètement différentes, comme on vient de le soulever à travers la question des profils. C'est vrai qu'il y a la situation des femmes qui est prise en charge de manière différente que celle des hommes, puisque les accueils d'hébergement d'urgence vont être différents pour chacun des sexes. La question des mineurs, qui est une vraie question aussi, qui répond à d'autres politiques. Donc, c'est difficile de répondre globalement. La question des personnes aussi qui sont accompagnées d'animaux, une question qui est aussi dans le questionnaire et qui permet de rendre compte, alors même si là les résultats ne permettent pas du tout de le dire, mais toutes les enquêtes montrent que ça a un impact, le fait d'être accompagné d'animaux sur la possibilité d'être en hébergement d'urgence. Et puis bien sûr aussi, je ne l'ai pas précisé dans les profils des personnes, mais c'est très très important d'en rendre compte, c'est la nationalité des personnes, c'est-à-dire que l'accès au dispositif est complètement corrélé à l'accès aux droits, et donc les personnes de nationalité qui ne sont pas ressortissantes de pays de l'Union européenne, ont bien sûr un accès beaucoup plus restreint aux dispositifs publics. Et donc ça ressort énormément. Donc un des leviers serait, pour le coup, de donner un accès
égalitaire. Bon, parce qu'il comprend des gens qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, mais certains avec des papiers, d'autres pas.
Voilà, bien sûr, oui. Il y a certaines personnes qui ont déjà des papiers, mais ceux que, souvent qui ont des papiers, c'est ceux qui ont pu régulariser leur situation professionnelle la plupart du temps, même s'il y a d'autres politiques comme le logement d'abord maintenant qui amènent un petit peu à penser l'insertion différemment, même si elle concerne pour une minorité les personnes sans papiers. Mais du coup, je me suis perdue.
Oui, bon, c'était de voir.
Mais oui,
voir
oui, bien sûr, il y a ceux sans papier voilà. Et ceux avec papier. Et donc, ceux qui sont sans papier se retrouvent en réelle difficulté, puisque d'autant plus avec la loi immigration qui a été mise en place.
Leur accès au droit est encore plus difficile, voire impossible.
Et puis, au dispositif d'hébergement d'urgence, tout simplement, si maintenant il faut être régularisé pour y accéder, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Ah, ça, bon, ça n'a peut-être pas été tout à fait soulisé quand la loi immigration votée il y a quelques semaines a été adoptée. Il y a cet effet-là aussi, dont on a moins parlé, de personnes qui accédaient à certains droits, qui ne peuvent plus y accéder parce qu'elles n'ont pas les papiers nécessaires. Alors, comme vous le savez, vous l'avez évoqué sous l'angle de la recherche, bon, c'est un phénomène qui n'est pas spécialement montpelliérain. Donc, il y a un chiffre qui est indiqué sur 330 000 personnes sans domicile en France, donc à peu près 10% sans abri. Alors, deux faits de rappel à caractère politique. En 2017, lors de sa première campagne électorale, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus personne à la rue à la fin de son mandat, son premier mandat en 2022. Parallèlement à ça, il y a quelques jours, les maires de 5 villes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Strasbourg et Rennes, ont conjointement attaqué l'État pour inaction sur ces questions-là. Que peut-on dire, ou est-ce que pour aborder la question sous un angle qui me paraît important, est-ce que l'augmentation du nombre de places d'hébergement, parce qu'il y a eu augmentation, est en retard, reste encore très en retrait par rapport au nombre de personnes sans-abri dont le nombre a augmenté ces dernières années? Est-ce que s'il y a ce différentiel persiste?
Alors là, encore une fois, c'est une question à laquelle je pense qu'il faut répondre en prenant en compte le contexte local. Et vous l'avez précisé dans votre question, c'est-à-dire que les attaques à l'État ont été faites dans certaines villes. Et je pense que ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que la politique de l'État localement est très différente d'une ville à l'autre. Donc ce n'est pas pour favoriser plus Montpellier, mais c'est vrai que la politique qui est menée ici, en tout cas, elle est très différente de celle qui est menée par l'État à Bordeaux.
Elle est moins insatisfaisante, on peut le dire.
Exactement, ouais. Ce qui peut expliquer des plaintes. Alors après, je n'ai pas le contexte là, très clair sur Bordeaux, mais de ce que j'ai pu comprendre un peu de loin jusque-là, c'est qu'en effet, il y a un contexte local qui est très différent. Et après, par rapport au nombre de places d'hébergement, pendant le Covid, il y a eu énormément de places qui ont été créées, qui étaient encore d'actualité lors de l'enquête en 2023. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est là aujourd'hui. Mais je sais qu'à Montpellier, en tout cas, il y avait quand même un nombre de places assez conséquent d'ouvert.
Alors, est-ce que ces difficultés ne tiennent pas au fait qu'il y a plusieurs intervenants publics, institutionnels, l'État et ses services, les collectivités locales, les communes ou les intercommunalités comme la métropole de Montpellier, le département aussi, notamment pour les mineurs. Est-ce que cette complexité institutionnelle, à vos yeux, a des effets négatifs sur la manière dont les réponses peuvent être apportées, parce qu'il faut que tout le monde se mette un peu autour de la table pour que des décisions nouvelles, des dispositifs complémentaires puissent être mis en place de manière effective.
Ça, c'est sûr, et c'était une des injonctions, je me rappelle, de la DIAL aussi par rapport à la question de la résorption des bidonvilles, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'était un point important aussi de cette enquête Nuit de la Solidarité que d'intégrer la question des bidonvilles et des squats. Et donc, en tout cas, c'était une injonction que de dire il faut que tous les acteurs travaillent ensemble, institutionnels, donc l'État, les collectivités et le département, ce qui n'est pas toujours facile en effet. À Montpellier, c'est quand même une expérience assez encourageante, je trouve, de dynamique qui est mise en place entre tous ces acteurs, qui a mis du temps à se mettre en place, mais là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant.
Donc on peut espérer qu'elle se perpétue, donc.
Voilà. En tout cas, au niveau de la résorption des bidonvilles, les différents acteurs travaillent ensemble. Bon, voilà, bien sûr, il y a toujours des difficultés, mais il y a quand même une dynamique.
Les conditions dans lesquelles les bidonvilles ont été évacués ont fait polémique. On ne peut pas revenir, mais en tout cas, il y avait...
Bien sûr.
Alors,
bien sûr,
oui. Pour y voir plus clair, donc, le ministre du Logement de l'époque, il y a quelques mois, Olivier Klein, avait annoncé la création de l'Observatoire national du sans-abrisme. Et il y a également aussi dans les tuyaux prévu à Montpellier un observatoire local du sans-abrisme. Où en est-on dans des, pour encore une fois mieux comprendre ces phénomènes et on peut l'espérer mieux les traiter?
Oui, alors avant de répondre, je repars sur les expulsions et les politiques d'évacuation, mais en effet, on ne peut pas les nier. Mais à noter que c'est un autre service de la préfecture qui met en œuvre, c'est notamment le préfet. Hein,
Bien sûr.
Donc voilà, donc c'est important de le préciser. Et puis aussi d'avoir en tête que, depuis en tout cas 2010, moi j'ai commencé à travailler sur les bidonvilles ici en 2009, donc j'ai pu voir un peu suivre l'évolution. C'est quand même une des villes où il y a eu très peu de politique d'évacuation, même si on a eu...
Oui, moins que d'autres, parce que bon, à Paris, notamment, c'est répété, brutal.
Puis ça peut être plusieurs fois dans la même année. Oui. Montpellier, ça quand même, il y a deux dates, deux années qui sont restées en 10-15 ans. Bon voilà, c'est différent, mais ce qui ne nie pas quand même l'ambiguïté de ces politiques-là. Donc pour répondre à votre question sur l'observatoire du sans-abrisme, en effet, c'était la deuxième mission que j'avais dans le cadre de mon poste à la MSH Sud, c'était donc de...
Un message, Maison des sciences de l'Homme Sud, je précise.
Donc la mission était de structurer un observatoire, enfin en tout cas de créer un retour un peu des attentes et des besoins des acteurs institutionnels, associatifs, sur le besoin d'un observatoire.
C'est ça. Donc, le partage des connaissances, la réflexion collective.
C'est ça. Mais moi, la mission consistait à faire un état des lieux un peu des attentes des uns et des autres. Elle n'était pas de mettre sur pied l'observatoire.
D'accord, d'avoir une espèce de préfiguration, en tout cas, débauche de ce que pourrait être l'observatoire.
Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc, préfiguration, c'était en effet la deuxième mission que j'avais, préfiguration d'un observatoire du sans-abrisme, qui a donné lieu à un rapport, mais qui était pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé qu'il soit, tout simplement, puisque je pense que vous l'avez compris, j'avais ces deux missions à mener de front. Alors, même si j'étais accompagnée de nombreux bénévoles et puis d'autres collègues, c'était difficile de mener à bien ces deux missions. Et donc, le rapport a permis de la rencontre des différents acteurs. Ça, c'est une très bonne chose qui a eu lieu. Néanmoins, elle n'a pas permis d'aller vraiment au cœur un peu des besoins.
Alors, bon, on arrive au bout de notre émission. J'avais prévu une question, je vous l'avais dit, quand on s'est préparé sur les recommandations que vous avez formulées. Bon, on ne va pas le faire comme ça n'importe comment. Donc, j'en viens à ma dernière question. Sur ces sujets-là, quelles sont à vos yeux les idées reçues, les idées fausses sur le sans-abrisme et sur les personnes sans-abri qu'il faut dire pour que les auditeurs et auditrices aient une vision claire plutôt que de transporter ces approximations au mieux?
Alors, comme ça, à chaud, je vais forcément oublier la moitié de...
Ce qui vous paraît majeur.
C'est de penser qu'en termes qu'il n'y a que des hommes sans abri. Bien sûr, il y a énormément de femmes. C'est de penser aussi qu'il n'y a pas de famille sans abri. Il y a énormément d'enfants et de couples et de familles. De penser aussi que les personnes sans abri sont toutes en situation d'addiction, prises avec des addictions fortes, etc. À déconstruire.
Ils ne sont pas tous alcooliques ou drogués, pour le dire de manière
plus claire.
Pas du tout.
Oui, voilà, c'est ça. complètement. Et puis la présence des migrants qui, de personnes sans abri qui ne sont pas que un peu le cliché du clochard français.
Le cliché d'autrefois.
Voilà, c'est ça, mais qui parfois est ressorti un petit peu. Et puis bien sûr d'avoir en tête que ce ne sont pas forcément aussi des individus, alors bien sûr qu'ils sont isolés, mais qui ont aussi des dynamiques d'appartenance assez fortes avec d'autres personnes, et que ces dynamiques-là, elles méritent aussi d'être prises en compte dans la mise en place des politiques publiques.
C'est-à-dire des dynamiques compris dans des relations, des interrelations dans la ville.
Exactement.
Voilà, avec des Français, avec des gens qui ont une situation un peu meilleure ou qui travaillent, etc. Ouais, c'est pas des gens totalement isolés, même si ils sont perçus comme très isolés dans leur vie quotidienne et dans leur vie nocturne notamment.
Quoi. Et ce qui n'empêche pas qu'il y ait des personnes aussi qui soient vraiment en situation de marginalité. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas enfermer les gens dans un profil type.
Bien, maman, vous nous avez aidés parce que précisément, c'était l'objet de cet échange, qu'on y voit plus clair et qu'on essaie de mieux comprendre ces situations qui, encore une fois, ne sont pas loin, ne sont pas dans une espèce d'espace étranger. C'est chez nous et c'est dans nos rues. Merci Marion Lièvre.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.